Le sujet traité aujourd'hui portera sur la loi orale. D'après la tradition juive, il y a deux sortes de Torah. Il y a la Torah écrite, le parchemin, le Sefer Torah, ce qui est écrit dans le Sefer Torah, et le commentaire qui est oral. Très souvent, on entend des juifs qui disent « Moi, je suis prêt à croire ce qui est marqué dans la loi écrite, ce que Moshe Rabbeinu a écrit, ou bien je crois aux 10 commandements. » Mais les rabbins sont venus après, ils ont rajouté, ils ont falsifié, ils ont écrit des tas de commentaires. Moi, je suis prêt à faire la loi de Dieu, mais pas la loi des rabbins. Je suis prêt à écouter la voix de Dieu. Mais les rabbins, ce sont des êtres humains. Je veux bien suivre une Torah qui est divine, mais pas une Torah qui est humaine. C'est vrai qu'ils ont des longues barbes, mais c'est pas parce qu'ils ont des longues barbes que je dois forcément les écouter. On va maintenant expliquer, premièrement, pourquoi il y avait une nécessité de donner une loi orale. Ensuite, on va expliquer que cette loi orale n'a pas pu être falsifiée ni rajoutée, elle est d'origine divine elle-même aussi. Alors, premier palier va être d'abord d'expliquer qu'effectivement, il y a une loi orale. Qui me dit que Dieu a transmis une loi orale? Peut-être que Dieu n'a transmis qu'une loi écrite et c'est tout. La loi écrite, qu'est-ce que c'est d'abord? D'après la tradition juive, Moshe reçoit la Torah au mont Sinaï. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, ce sont les 5 livres qui parlent depuis la Genèse, Bereshit, jusqu'à Deutéronome, Dvarim. 5 livres qui relatent l'histoire du monde depuis la création jusqu'à la mort de Moïse lui-même. Lorsque Moïse monte au haut du mont Sinaï, il ne reçoit pas toute la Torah. Il reçoit les 10 tables de la loi, plus l'histoire de la Torah, donc il reçoit un livre et demi de la Torah, c'est-à-dire l'histoire qui va depuis la création jusqu'au moment qu'il est en train de vivre actuellement. Moshe reçoit la Torah au mont Sinaï. Donc au mont Sinaï, Moshe ne reçoit qu'environ un livre et demi, la première partie de la Torah qui relate l'histoire du monde depuis la création jusqu'au moment que nous sommes en train de vivre actuellement. Moshe Rabbeinu est au mont Sinaï, reçoit la Torah. Après quoi, durant 40 ans dans le désert, où le peuple juif pérégrine dans le désert, dirigé par Moïse, par Moshe Rabbeinu, Dieu, de temps à autre, se dévoile à Moïse, c'est un prophète, et lui dicte, voyons, Mère Hachem et Moshe les morts, Dieu dit à Moïse de dire au peuple d'Israël, et Moïse écrit sous l'inspiration divine prophétique, écrit encore une partie du texte de la Torah. Après 40 ans, arrive le jour de la mort de Moïse, Moïse va raconter dans la Torah qui va mourir, et en cela s'achève l'histoire de la Torah, s'achève le Chumash, la Torah, comme nous avons les cinq livres de la Torah. Ce même jour de la mort de Moïse, Moïse va écrire 12 exemplaires de la Torah, en donne un à chaque tribu, et le premier, l'original, sera mis dans l'arche de l'Alliance, dans le tabernacle. Après quoi, durant l'histoire, seront rajoutés encore 19 autres livres. Josué, les juges, les rois, les prophètes, Tehillim, Ecclésiastes, Proverbes, Chroniques, etc. Il y aura encore 19 autres livres de différents auteurs jusqu'au dernier prophète. Le dernier prophète s'appelle Malachi. Il vit 4 siècles avant l'ère chrétienne. Et c'est avec lui que s'achève le canon biblique. Il y aura les 5 livres de la Torah, plus 19 autres livres qu'on appelle le Nar. Ce sont Nivim, Ktuvim, c'est-à-dire, dans le jargon français, ce sont les prophètes et les hagiographes. On aura en tout 24 livres qui forment le canon biblique, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. C'est le canon biblique, les 24 livres de la Torah, de la Bible. Dans les 5 premiers livres de la Bible, il y a des mitzvot. 613 mitzvot, c'est-à-dire 613 ordonnances. Dieu ordonne des choses à faire et d'autres à ne pas faire. Ces lois, ces 613 lois qui nous concernent en tant que juifs, sont non compréhensibles. Telles qu'elles sont écrites dans le texte écrit, elles ne sont pas praticables. Il y a ici un manque de compréhension. Prenons quelques exemples. Par exemple, nous disons deux fois par jour un verset de la Torah, on dit ça dans le Shema Israël le matin et le soir, « Vasulam tzitzit al kefeh bigdehem » Bnei Israël feront des tzitzit au coin de leurs habits. La question se pose, qu'est-ce qu'un tzitzit ? Tzitzit signifie en hébreu littéral une touffe, une frange. Une frange de quoi ? Une touffe de quoi ? On peut avoir une touffe de fil, on peut avoir une touffe de cheveux, tzitzit rosho, on peut avoir une touffe de fougère, une touffe d'herbe, une touffe de banane, une touffe de n'importe quoi. La Torah n'a pas explicité de quelle touffe. Donc Dieu, moi je suis un homme religieux. On va dire, j'ai vu Dieu au Mont Sinaï, je sais que la Torah elle est vraie. Je crois en la loi écrite. Je veux maintenant l'appliquer, la pratiquer. Tu me dis, porte au coin de tes habits une touffe. Une touffe de quoi ? Qu'est-ce que je dois faire ? Si Dieu, tu m'ordonnes une chose, parle de façon intelligible, que je puisse comprendre ce que tu veux de moi. C'est pas clair, le texte ici, il manque. De même, tu me dis, au coin, tu mettras une touffe au coin de tes habits. C'est quoi un coin d'habit ? Je prends ici ma veste. Voilà ça. Est-ce que c'est un coin ? D'un côté, oui. Mais d'un côté, non, parce que c'est quand même un peu rond. Alors, quel est l'angle du coin pour qu'il soit considéré coin ? Il faut un angle pointu, arrondi. Combien arrondi ? C'est pas marqué. Ça, c'est un coin. Le petit coin là, il est pointu, mais il est petit. Est-ce que c'est un coin, oui ou non ? Je vais mettre un tzitzit ici, peut-être. Et ici, là, il y a un creux. Il y a un coin, mais en creux. C'est aussi un coin. Peut-être aussi, il faut mettre un tzitzit. Et où on le met, le tzitzit ? Tout au bord du coin, plus à l'intérieur. Et au drap, que je me couvre la nuit, c'est aussi un habit. Sur un manteau, si un coin, un chapeau, si j'ai des chaussures pointues. Il y a des centaines de détails qui concernent la loi de tzitzit. Où sont-ils marqués ? Dieu, tu me dis une chose, pas clairement. L'affirmation que nous disons est qu'il est impossible que Dieu donne la loi écrite sans un accompagnement oral. Nous affirmons que Moshe a écrit de façon écrite l'ordonnance, le gros titre. Sache, tu dois faire tzitzit au coin de tes habits. Qu'est-ce que c'est que tzitzit ? Qu'est-ce que c'est qu'un coin d'habit ? Comment on fait le tzitzit ? C'est fait avec des fils. Combien de fils ? De quelle couleur ? De quel matériau ? Il y a des nœuds. Combien de nœuds ? À quelle distance du coin ? C'est quoi un coin ? C'est quoi un habit ? Dans quelle période ? Il y a des centaines, environ 300-400 alinéas qui concernent la loi de tzitzit. Où sont-ils marqués ? Nous affirmons, ça a été dit oralement. Et on ne peut pas renier cette affirmation. Pourquoi ? Parce qu'il est inconcevable qu'on ordonne une chose, qu'on ordonne quelque chose à quelqu'un sans lui expliquer clairement de quoi il s'agit. Admettons, je suis Dieu. Toi, tu es le juif Moshe. Moshe, je t'ordonne, écoute-moi bien, hein, c'est très important, je suis Dieu. Blabla, 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 blabla. Attention, hein. Blabla, 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 blabla. Est-ce que Dieu peut ordonner une chose pareille ? Ça ne veut rien dire. Tu m'ordonnes une chose, ordonnant de façon claire. Tu me dis, porte un tzitzit. Qu'est-ce que c'est qu'un tzitzit ? Je ne sais pas. Une frange, une touffe de quoi ? Prenons notre mitzvah très connue, tfilin. Chaque juif mâle est censé porter une fois par jour au moins, depuis l'âge de 13 ans, les tfilin, une boîte de phylactères en français, qu'on doit mettre une sur le bras, une sur la tête. Où c'est marqué tfilin ? Le mot tfilin n'apparaît nulle part dans toute la Torah. N'existe pas. Comment c'est marqué ? C'est marqué comme ça. Vayu de totafot ben enecha. Tu porteras ces paroles en totafot entre tes yeux. C'est quoi entre tes yeux ? Ici. On va dire que personne ne porte les tfilin ici. On les porte ici. La Torah telle qu'elle dit la mitzvah, vous porterez les totafot entre vos yeux. C'est là, entre mes yeux. Et qu'est-ce que c'est que totafot ? Qu'est-ce que c'est que totafot ? Totafot, c'est même pas de l'hébreu. Le Talmud prétend, c'est une langue inconnue. Il y a une partie qui est en africain. Totafot signifie deux et deux. Deux en ketfi, c'est une langue déjà inconnue aujourd'hui, et deux en africain. Tot signifie deux dans la langue ketfi, et fot signifie deux dans la langue africaine. Comme ça prétend le Talmud. Pourquoi la Torah parle-t-elle en africain et en ketfi ? Bon, c'est un autre sujet. En deux mots vraiment, pour ne pas vous laisser trop dans la question et la curiosité. À l'origine, la Torah n'est pas écrite en hébreu, elle est écrite en langue sainte. C'est à peu près l'hébreu d'aujourd'hui, mais avec encore quelques autres mots. C'est la langue sainte, c'est la langue avec laquelle Dieu s'exprime. La divinité parle à l'homme en langue sainte. Lorsqu'il y a eu la terre de Babel, Il y a un éclatement de cette langue dans 70 langues et des parties de la langue sainte sont parties dans d'autres langues. On quitte en quelque sorte l'hébreu actuel et sont allés s'installer dans d'autres langues. C'est pour ça que la Torah parle dans... Il y a au moins une dizaine de langues qui sont dans lesquelles parle la Torah. Il y a des mots en français, il y a des mots en allemand, il y a des mots en arabe, il y a des mots en perse. Rashi nous dit, et c'est le Talmud qui le dit avant Rashi, ce mot-là ne signifie absolument rien en hébreu, c'est du perse. Il y a un mot en français. Par exemple, le mot yovel. Yovel, c'est un mot qui apparaît dans la Torah. On ne sait pas ce que c'est. Le Talmud dit qu'est-ce que c'est, on ne sait pas. Vaïd mouchor ha yovel. Lorsqu'on entendra le yovel, qu'est-ce que c'est que le yovel? Rabbi Akiva vient et dit, quand j'étais en Galia, Galia c'était quoi il y a 2000 ans? La Gaule. On appelait le bélier yovel, yovelus. En gaulois, d'accord? Yovel, c'est le bélier. Bélier, yovel. C'est bélier en ancien français, en gaulois. Nous savons aujourd'hui que nous devons sonner du shofar le jour de Rosh Hashanah dans une corne de bélier. C'est marqué, tu sonneras du yovel le jour de Rosh Hashanah. D'où on le sait? Parce qu'en français, il y a 2000 ans, yovel signifie bélier. C'est pas un mot hébreu. T'as des mots en arabe, le mot na, par exemple, le jour de Pessah. Il y a le korban, le sacrifice pascal, il est fait avec un agneau qui doit pas être cuit à moitié. Lo tochnu mimenu na. Vous ne mangerez pas lorsqu'il est cuit à moitié. Na, c'est pas de l'hébreu. Rachid sur ça, c'est de l'arabe. Effectivement, demandez à un arabisant aujourd'hui, comment est-ce qu'on dit une viande qui est à moitié crue, on appelle naï ou naïe. C'est de l'arabe. Et comme ça, on a une vingtaine de mots, 10 langues différentes, on peut dire en gros, dans la Torah, qui sont écrits en langue étrangère. Je fais une parenthèse, je reviens maintenant sur la loi orale. Revenons au tefillin. Donc, je suis un juif religieux, je vais au Dieu mon Sinaï, il me dit, Ron, très important, tu vas faire une mitzvah très importante. Tous les jours, tu porteras ces paroles, totafot, 2 et 2, ça signifie 2 et 2, entre tes yeux. Qu'est-ce que je dois faire? 2 et 2, peut-être que j'ai écrit ces paroles sur des petites banderoles comme ça, des parchemins. Je suspends sur mes lunettes, j'en ai 2 par là et 2 par-ci. Peut-être que c'est ça, mais il faut que je porte des lunettes. Peut-être que c'est, moi je suis d'origine suisse. Là-bas en Suisse, on a une invention très sympathique qui s'appelle le coucou. Je vais mettre un petit coucou miniature ici. Toutes les heures, coucou, coucou, ça fait 2. Coucou, Dieu existe. Coucou, ça fait 2 et 2, ça fait 4, c'est bien, totafot. T'as un appareil qui s'appelle un totafot qui te fait coucou, Dieu existe, coucou, Dieu existe, toutes les heures, c'est bien. Les Arabes, ils ont 5 fois par jour le muezzin qui appelle Allahu Akbar. Nous, on a toutes les heures, coucou, Dieu existe, Shema Israël. Pourquoi pas? Qui me dit que c'est pas ça? C'est marqué où qu'on doit faire ce que nous faisons aujourd'hui à Tfilin, c'est une boîte noire. On en met une au bras, une, pas entre les yeux, sur la tête, à hauteur, entre les yeux. Ni trop à gauche, ni trop à droite, mais là-haut, à l'endroit des cheveux. Si le tefillin, d'après la loi juive, descend 1 mm sur le front, à l'endroit où il n'y a pas de cheveux, ou plus bas de l'endroit où il y avait avant les cheveux, avant la calvitie un peu avancée, alors on n'a pas fait la mitzvah. La mitzvah, il est impératif que le tefillin soit mis à l'endroit des cheveux ou à l'endroit où il y avait les cheveux avant la calvitie. Si il descend sur le front, on n'a pas fait la mitzvah. Mais c'est marqué où? La Torah me dit entre les yeux. La Torah orale vient et explique. Pour faire un tefillin qui soit cachère et le mettre de façon cachère, il faut respecter de 3 à 4 000 lois. Tefillin vient du mot tefillah, c'est prière. C'est comme un branchement ADSL à haut débit. Ça te branche avec Dieu. Attends, si dans le programme il manque une lettre, il n'y a plus rien qui passe. Tefillin, c'est ça. C'est le programme de branchement avec la divinité. S'il manque une lettre dans la tefillin, une lettre qui est mal faite, un détail dans les peaux, dans les fils, dans la couleur, dans les lanières, quoi que ce soit, s'il y a 3 à 4 000 lois, c'est dur aujourd'hui de trouver sur le marché un tefillin qui soit vraiment cachère. C'est encore dur de trouver quelqu'un qui les mette comme il faut. Pourquoi? Il y a beaucoup de lois. Où sont marquées ces lois? Nous prétendons que c'était donné dans la loi orale. Pourquoi? Il est impossible que Dieu m'ordonne de faire une chose sans m'expliquer de quoi il s'agit. Tu porteras 2 et 2 entre tes yeux, ça ne veut rien dire. 3e exemple. Tout le monde connaît la mitzvah qu'on fait quand on a un enfant qui est né à l'âge 8 jours, on le fait la Brit Mila, circoncision. Comment c'est marqué Brit Mila? C'est marqué nulle part. La Torah dit, le verset suivant, Bayom Hashmini, le 8e jour, Yimol Bessar Orlato. Il retranchera la chair de son excroissance. Bessar la chair, Orla, excroissance. Or là, c'est une chose qui est en trop. Un morceau de chair qui est en trop. Mazal tov, j'ai un enfant qui est né. Je suis un juif religieux, pratiquant, je vais faire ce que Dieu me demande. Dieu me dit, t'as une mitzvah très importante. Le huitième jour après la naissance, tu lui enlèves ce qu'il a en trop. Je prends mon gosse, je pose la question, mais qu'est-ce qu'il a en trop? Qu'est-ce que mon gosse a en trop? Peut-être l'œuf de l'oreille. C'est rien l'œuf de l'oreille. Boucle d'oreille, on n'apporte pas des piercings. Alors, mais quel lobe? Gauche ou droite? Donc c'est pas ça. Je me dis que c'est peut-être le nez, le profil juif un peu accusé comme ça. Ben Dieu aimerait qu'on ait, que facilement on trouve notre mazal quand on sera grand. Le nez est toujours un obstacle à cela. Donc il est très gentil avec nous. À l'âge de 8 jours, quand on est encore petit, on ne sent pas trop les choses. Hop, on rabote un peu. Ce qui est en trop, sur le rigide plastique. Qui me dit que c'est la Brit Mila où nous la faisons aujourd'hui? C'est marqué nulle part. Plus que cela, si je vais être maintenant rigoureux, je regardais, est-ce que dans la Torah, le mot Orla apparaît-il autre part? Et là-bas, dans le contexte, je pourrais maintenant définir de quoi il s'agit. Je feuillette, je trouve, c'est marqué dans le livre de Dvarim, dans le dernier livre des cinq livres, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu va retirer la Orla qui recouvre notre cœur. Donc je déduis, c'est quoi l'Orla? Une membrane qui recouvre le cœur. La membrane subcardiaque. Si je suis un juif rigoureux vraiment, je prends mon gosse à l'âge de demi-jour, je ouvre la cage thoracique et je prélève une partie de la membrane subcardiaque. C'est ça, et je rigoureux avec le texte qui est écrit. Qui me dit que c'est la Brit Mila où on fait aujourd'hui la circoncision? Si aujourd'hui quelqu'un vient et dit, écoutez, vous êtes trompés tous les juifs, d'après le texte, la circoncision on l'a fait au cœur, au nez ou l'œuf de l'oreille. Qu'est-ce qu'on lui dit? Mamoul. Ça fait des millénaires qu'on fait à l'organe génital. Mais d'où tu sais? D'où tu sais? C'est bien clair. Toute notre Torah provient de la loi orale. Le texte écrit, on peut le comprendre comme on veut, parce qu'il est tellement opaque, tellement hermétique, il veut rien dire. On va expliquer plus tard pourquoi Dieu a donné une loi orale, oralement. Ce qui était bien plus simple qu'ils mettent tout par écrit. Toutes les lois de Tfilin, toutes les lois de Sicile, comment faire, qu'est-ce que c'est, où on le fait, etc. Il aurait tout mis par écrit. Pour moi, ce que nous voulons expliquer maintenant en première étape de notre exposé, c'est qu'il est inconcevable de dire que Dieu a donné une loi écrite et c'est tout. Forcément, il y a eu un accompagnement oral. On a une preuve encore, la preuve vraiment, coup de massue, très clair, l'impasse. Comme quoi, il y a eu parallèlement au don de loi écrite, un don de loi orale. C'est ce qui concerne l'égorgement rituel, un animal cachère. Si nous voulons en consommer la chair, il faut l'égorger de son rituel. Ce sont 17 chapitres dans le deuxième tome du Shulchan Aruch. Pour être un égorgeur rituel attitré, c'est au moins une année d'études à raison de 10-12 heures par jour d'études forcenées pour recevoir, vraiment connaître bien ces lois, une profusion de lois. Ces lois, comment sont-elles marquées dans la Torah? Il y a un seul verset. C'est marqué, parce que tu dois manger de la viande, « Vezavarta, tu égorgeras, et ta behema, l'animal, kasher tzivitikha, comme je te l'ai ordonné. » Tu l'égorgeras comme je te l'ai ordonné. Donc le texte parle d'une ordonnance. Tu m'as ordonné comment faire. Où est marquée cette ordonnance? Je feuille toute la Torah. J'apprends du début à la fin, de la fin au début, je regarde nulle part. Il y a une ordonnance comment faire. Or c'est marqué, tu feras comme je te l'ai ordonné. Donc il m'a ici une preuve dans le texte écrit qu'il y a eu parallèlement une ordonnance orale. Celui qui dit, moi je suis d'accord, je crois en la loi écrite, il doit forcément croire à la loi orale. Ça va ensemble. La loi écrite témoigne qu'il y a eu parallèlement au don de loi écrite, un don de loi orale. Ça c'est première étape. Donc forcément il y a une orale qui était donnée. Deuxième étape. Qui me dit qu'elle n'a pas été falsifiée, qu'elle n'a pas été rajoutée durant les temps, que les rabbins ne sont pas venus et ont mis encore des tas de décrets, que Dieu a dit une petite chose et après, téléphone arabe. On dit une chose, au bout de quelques générations, on est quand même 3000 ans que cette loi orale existe. Au bout de 3000 ans, il se peut qu'il y a eu ou des pertes, ou des changements, ou des rajouts. Qui me dit que ça n'a pas été falsifié durant l'histoire? Deux réponses à cela. Première réponse. Il est marqué dans la Torah écrite la chose suivante. C'est marqué dans Parashat Shoftim, c'est dans le livre de Dvarim. Le livre de Dvarim qui était écrit un mois avant que Moïse décède. Moïse dit à Dieu, Moi, voilà, maintenant, Dieu, bientôt, je vais mourir. Aujourd'hui, quand les Juifs ont une question, alors ou bien la réponse est marquée dans la loi écrite, ils vont voir. Si ce n'est pas clair, ils viennent me voir à moi, Moshe Rabbeinu, je donne la réponse. Au cas où moi, Moshe Rabbeinu, je ne suis pas au courant de la réponse, je ne sais pas ce qu'il faut trancher dans ce cas-là, ben, je suis prophète. Je dis, Dieu, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? On a des cas similaires dans la Torah. Je te pose la question, Dieu me répond, et je réponds au pays d'Israël. Mais demain, Dieu, moi, je vais mourir. Alors, pays d'Israël, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu répond, chaque génération, il y aura des shoftim. Shoftim en hébreu, des juges. Ce ne sont pas les juges du tribunal rabbinique. Les juges, ce sont ceux qui vont juger quelle direction doit prendre le peuple d'Israël. C'est les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Chaque génération, il y aura des dirigeants. Vous écouterez ces dirigeants et vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. Lo tasuru me'advarash regdulecha yamin usmol. Vous ne bougerez pas de ce qu'ils vous diront, ni à gauche, ni à droite. Rachid dit sur place, pourquoi c'est marqué ni à gauche ni à droite? Dis-moi, vous ne bougez pas de ce qu'ils vous diront. Pour me dire, même si sur la droite il te dit gauche, même sur la gauche il te dit droite. C'est-à-dire que nous devons, de façon radicale, être complètement subordonnés à ce que disent les dirigeants de la génération. Ça veut dire, la loi écrite me dit d'écouter la loi orale. Les transmetteurs de génération en génération de la loi orale, ce sont les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Eux sont détenteurs de cette loi orale et c'est eux qui la transmettent de génération en génération. Admettons, c'est faux, mais admettons qu'ils sont trompés. Durant l'histoire, les rabbins ont oublié une partie, rajouté une autre. Il y a eu le téléphone arabe, la loi orale n'est pas celle que Dieu a donnée à l'origine. Moi, j'ai aucun problème. Dieu m'a dit dans la loi écrite, t'écouteras. Les rabbins, les shoftim, c'est marqué « Asher yu bayamim ahem » qui aura à ton époque. Moi, en tant que juif, aujourd'hui, en l'an 2005, je dois écouter les grands dirigeants spirituels. La Torah écrite, il y a 3200 ans, me dit « T'écouteras les grands rabbins spirituels, les dirigeants spirituels de ton époque à toi. Tu ne bougeras pas de ce qu'ils te diront, ni à gauche, ni à droite. » Même si ça m'a l'air peut-être bizarre, peut-être que j'ai l'impression qu'il se trompe, rien du tout. Nous sommes subordonnés à la loi écrite. Dieu, dans la loi, celui qui croit en loi écrite, donc Dieu lui dit « Écoute le rabbin de ton époque. » Donc même s'il y a une falsification, admettons, nous sommes complètement égaux. Nous avons l'ordre dans la part de la divinité elle-même, dans la Torah écrite, d'écouter ce que disent les rabbins. Ça c'est le premier point. Deuxième point, on n'a pas le choix. Ah, peut-être avant de parler du deuxième point, comment reconnaître qui sont les dirigeants spirituels de la génération? Qui sont-ils? Alors c'est très très simple. Comme dans n'importe quelle branche, il y a des spécialistes de cette branche. On va dire en cardiologie. Moi, je suis un novice. Donc, tu as un étudiant en cardiologie, tu as un médecin, tu as un spécialiste, tu as un spécialiste de renommée nationale et tu as un spécialiste de renommée internationale. Tous les cardiologues au monde savent que dans le monde, tu as les 3-4 réputé plus grand cardiologue dans une certaine... Je sais que même en cardiologie, tu as des spécialisations, d'accord? Je sais pas moi, en ce qui concerne les valvuides microbiennes, je dis, je ne connais pas, hein. On va dire qu'on a un sujet très précis en cardiologie. Il y a 3 ou 4 spécialistes au monde qui sont reconnus comme étant les plus réputés, les plus grands savants dans cette matière. Comment on sait qu'ils sont les plus grands? Ben, ceux qui sont dessous, c'est-à-dire, on va dire, les 100, tu prends 100 cardiologues, tu demandes 10 mois dans cette branche de la cardiologie. Qui sont les top niveaux? Oui, aujourd'hui, ça se fait beaucoup par des revues spécialisation. Tu vas demander maintenant, tu prends 10 cardiologues, tu demandes quelles sont les revues de cardiologie les plus solides, de meilleure réputation, les plus... celles qui sont considérées comme le nec plus ultra. Parmi les 10 cardiologues, tu verras qu'il y aura 3-4 revues qui reviendront toujours. Ces 3-4 revues sont, vu que ce sont des spécialistes cardiologues qui me disent que ce sont les meilleurs, certainement, ces 3-4 revues sont effectivement les meilleures. Comme ça, dans n'importe quelle branche. N'importe quelle branche, tu prends un métier, je ne sais pas moi, le vendeur de textile, aujourd'hui, quels sont les meilleurs producteurs de textile au niveau qualité-prix, tu prends l'informatique, quels sont les meilleurs programmes informatiques, etc., etc. Dans chaque branche, les spécialistes de cette branche savent qui sont les réputés, les necs plus ultra. Dans la Torah aussi. Tu as le juif normal qui s'étudie un peu, tu as les spécialistes, ce sont ceux qui étudient dans les chivotes. Tu vois, ce qu'on appelle un Rosh Yeshiva, celui qui a la tête d'une Yeshiva, il s'y connaît plus que les autres, comme on est qu'il en a la tête, et tu as les plus grands Yeshivot avec les plus grands rabbins, on va dire, tu as une centaine dans le monde. Ces 100 plus grands rabbins du monde, qui sont les cerveaux les plus grands en Torah, qui en moyenne ont été depuis 60 ans, chacun confronté tous les jours aux plus grands cerveaux dans le Talmud et dans la Torah, et ils sont reconnus comme les 100 plus grands. Ces 100 plus grands ont un consensus entre eux, ils savent, nous savons qu'il y a quand même aussi parmi nous 3-4 qui sont les plus grands de ce monde. Ces 3-4 sont considérés comme les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. Ce sont eux. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Même si les 3-4 ne sont pas d'accord entre eux, ça c'est la nature de la Torah, elle est comme ça. Quand on prend une page de Talmud, il n'y a jamais deux rabbins qui sont d'accord ensemble. C'est la Torah, les facettes différentes de la Torah. Comme si on prend n'importe quel objet. Je prends ici un livre. Maintenant, d'un point de vue, on peut dire que la base ici est plus petite que la hauteur. Mais quelqu'un qui regarde par ici, vers cet aspect du livre, dira non, c'est le contraire, c'est la base qui est plus grande que la hauteur. Qui a raison? Les deux ont raison. Parce qu'on a des points de vue différents sur un même objet. La Torah étant la vérité absolue, elle éclate sur terre en différentes facettes. Le Talmud va traiter de toutes ces facettes-là parce qu'elles sont toutes vraies, avec des points de vue différents. Tu as toujours des rabbins qui vont, sur 99%, ils seront d'accord. 99% de la Torah, ils sont d'accord. Ce petit pourcent qui reste, il y a des discussions. Est-ce qu'on fait comme ci? Est-ce qu'on fait comme ça? Tous sont vrais. Le Talmud tranche déjà il y a 1500 ans. Beit Shammai dit A, Beit Hillel dit moins A. Le Talmud pose la question, qui a raison? Le Talmud répond, Elu ve Elu divrei Elohim Chaim. Ceux-là et ceux-là sont paroles du Dieu vivant. Lorsqu'on parle d'une vérité absolue, vivante, il est nécessaire, on appelle ça l'altérité en philosophie, lorsque la vérité absolue atterrit dans ce monde, elle doit forcément éclater en plusieurs facettes. Donc il se peut que les grandes générations ne sont pas d'accord sur eux sur certains points. Sur 99% des points, ils sont oui d'accord. Mais sur 1% qui reste, même moins, ils ne sont pas d'accord. Néanmoins, ils sont toujours reconnus par l'immense majorité, la totalité des grands rabbins du monde, que ce sont eux les nec plus ultra. Ce sont eux les dirigeants de la génération. Dieu me dit dans la Torah, 3200 ans, tu vas écouter ce que disent les grandes générations et tu ne bougeras pas de ce qu'ils diront, ni à gauche ni à droite. Chaque génération, il y a eu de ces rabbins-là, chaque génération, il y en aura. La messie juive rajoute même que c'est une partie de l'âme de Moshe Rabbeinu qui revient, qui rentre dans ces hommes-là. Effectivement, on voit que ces hommes-là sont vraiment au niveau de leur capacité intellectuelle. Je ne sais pas si c'est encore dans le cadre de l'humain. En tout cas, ça dépasse de beaucoup, beaucoup la moyenne humaine en IQ, en mémorisation, en pureté, en sainteté. C'est pas seulement savoir beaucoup, mais ces hommes-là doivent être extrêmement purs, extrêmement saints. Aujourd'hui, qui sont les grandes générations dans le monde sfarad? C'est le Rav Ovadia Yosef, je crois de façon incontestée, je parle maintenant des plus grands, il y a beaucoup d'autres grands rabbins, mais les plus grands. Dans le monde Ashkenaz, c'est le Rav Eliashiv, le Rav Steinman, on va dire ça, c'est dans les trois plus grands. Il y a encore deux qui sont les forces montantes, qui n'ont que 80 ans chacun, ils sont encore un peu jeunes, c'est le Rav Shmuel Auerbach et le Rav Chaim Kanevski, d'accord, qui sont les deux forces montantes dans le monde Ashkenaz. Donc on a cinq qui sont les dirigeants spirituels de la nation reconnue par tous les grands rabbins. Attention à faire une très grande nuance entre dirigeant spirituel et kabbaliste ou décisionnaire, ce sont des choses différentes. Ça dit que ce n'est pas la même chose, on parle maintenant de dirigeant spirituel, ce sont eux qui vont dire quelle direction doit prendre le peuple d'Israël, vers où nous allons, comment trancher dans chaque cas. Ils vont juger, ce sont les shoftim qui vont juger, est-ce qu'on va par là ou est-ce qu'on va par là. Un tzaddik, il a une force de faire des brachot, de bénir, de prier à Dieu. Il a des fois roi, il a un esprit saint, mais ce n'est pas quelqu'un qui est capable de dire maintenant le peuple d'Israël doit aller comme ci ou comme ça. Ça, ce sont les grandes générations, les cinq noms dont j'ai parlé auparavant, qui sont présents chaque génération. On s'arrêtera pour le moment ici. Au prochain cours, nous analyserons pourquoi est-ce que on verra le deuxième point. La deuxième preuve, comme quoi cette loi orale, effectivement, est la vraie loi orale. Elle n'a pas été falsifiée durant l'histoire. Ou même si, admettons, je répète, c'est faux, mais admettons qu'elle a été falsifiée, nous sommes quand même tenus par le créateur, par l'auteur de la loi écrite, de la respecter.